Les rendez-vous de la MIF, présentés par le docteur Jonathan Taïeb.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir. Je me présente, je suis le docteur Jonathan Taïeb et je vous souhaite la bienvenue dans le tout nouveau format de l'émission de la MIF, l'Association des médecins israélites de France. Association qui, depuis septembre 2017, a un nouveau bureau, un nouveau président, le docteur Bruno Aliwa, et une nouvelle équipe. J'ai le plaisir de présenter cette émission avec deux membres éminents de ce bureau, le docteur Alexis Astruc. Bonsoir Alexis.
Bonsoir Jonathan.
Et le docteur Émilie Sadoun. Bonsoir Émilie.
Bonsoir Jonathan.
Alors, programme de cette émission, Émilie.
En effet, Jonathan, passons aux choses sérieuses. Alors, au cours de cette édition, nous allons aborder trois grands thèmes. Dans une première partie, nous allons parler des généralités en ce qui concerne la bioéthique et les sujets qui font débat en ce moment même. La deuxième partie concernera le livre de Michel Simès et sera traitée par le docteur Astruc, ici présent. Enfin, dans une troisième et dernière partie, nous vous parlerons du dépistage du cancer colorectal.
C'est parfait. Alors, quel monde voulons-nous pour demain? C'est cette question essentielle qui donne d'ailleurs son titre aux États généraux de la bioéthique lancés cette année sur proposition du président de la République, Emmanuel Macron. Alors, pour nos auditeurs qui sont nombreux, je l'espère, à nous écouter ce soir, quand on dit bioéthique, de quoi parle-t-on exactement, Émilie?
Pour faire simple, il s'agit de l'étude des problèmes moraux soulevés par la recherche et les techniques biologiques, médicales ou génétiques. En effet, on le sait, les avancées dans ces domaines posent un certain nombre de problèmes moraux pour concilier le respect dû à la personne humaine avec le progrès scientifique. Quelles sont donc les limites ?
D'accord, donc c'est quelles sont donc les limites ? Donc en fait, on se pose la question de la lutte contre la théorie des dominos, hein, qui sous-entend que puisque c'est possible techniquement, hein, la science progresse de jour en jour, est-ce que la loi doit l'autoriser ? Et c'est en tout cas tout l'enjeu de ces états généraux, c'est un vaste débat. Quand on parle de bioéthique, de quel sujet on parle exactement, Émilie ?
Alors parmi les sujets qui font débat et nécessitent une réflexion morale, figurent notamment la procréation médicalement assistée, ou PMA, le clonage, le diagnostic prénatal et préimplantatoire, le statut de l'embryon, la gestation pour autrui, qu'on appelle plus vulgairement la GPA, l'intelligence artificielle ou encore l'IA, les prélèvements d'organes, la fin de vie, avec plus particulièrement l'acharnement thérapeutique et l'euthanasie.
D'accord. Alors juste avant de définir quelques thèmes à nos auditeurs, peut-être plus de précisions sur ces états généraux. Qui organise ces états généraux ?
Les états généraux sont organisés par le Comité consultatif national d'éthique, alias CCNE. Ils ont été lancés le 18 janvier 2018 et constituent une phase préalable à la révision de la loi de bioéthique prévue pour la fin d'année 2018, pour justement procéder à la révision de la loi de bioéthique de 2011. Le but de ces états généraux est d'établir un débat aussi ouvert que possible et qui prenne en considération des avis émanant de l'ensemble de la population française concernée. Autrement dit, citoyens, scientifiques, courants de pensée, courants religieux, associations et experts.
D'accord, donc c'est-à-dire que, par exemple, je suis David, j'ai 25 ans, je suis juriste, je suis Caroline, je suis comptable, je souhaite donner mon avis, ma réflexion éthique, je peux y participer, me faire une idée. Également, j'ai l'impression que dans ce site internet que tu nous donneras de très rapidement, on va pouvoir donner son avis, par exemple, sur la procréation médicale assistée, on va pouvoir consulter les avis, on va pouvoir palper un petit peu l'opinion publique française sur ces questions-là, quoi.
Tout à fait, Jonathan. Tous les citoyens, je dis bien tous, sont invités à y participer, au travers notamment de nombreuses rencontres dans les territoires et via un site informatif et participatif. Alors, je vous le cite, donc c'est https://états généraux, donc au pluriel tout attaché, de la bioéthique.fr.
D'accord, alors, donc ce site internet hein, des états généraux de la bioéthique est géré par le CNE, le Conseil Consultatif National d'Éthique, hein, c'est un organisme composé donc de plusieurs personnalités médicales, mais aussi de la société civile. On a d'ailleurs le grand rabbin de France, Chaim Korsia, qui a été membre de cette institution pendant de nombreuses années. Alors, ce CNCE s'engage à rendre public hein, sur le site web l'ensemble des contributions, des associations, des comptes rendus qui sont rédigés lors des débats régionaux, parce que, en fait, si je comprends bien, il y a des espaces éthiques un petit peu partout en France, et ces espaces éthiques réunissent un petit peu tout le monde et ensuite vont déposer leur compte rendu sur ce site internet.
En effet, Jonathan, l'ensemble de ces contributions sera pris en compte par le CCNE pour constituer son rapport de synthèse, qu'elle soit citoyenne ou issue des différentes institutions. Et un projet de loi doit être présenté au Parlement à l'automne pour une adoption définitive début 2019.
D'accord. Alors concrètement, pour nos auditeurs, on va essayer d'expliquer quelques notions qui seront abordées, si tu le veux bien, Émilie. On ne va malheureusement pas avoir le temps de tous les aborder. Évoquons d'abord deux sujets dont on entend beaucoup parler en ce moment dans le cadre de ces états généraux de la bioéthique. C'est le cas de la PMA, la procréation médicale assistée, ou de la GPA, la gestation pour autrui. Alors, quelle est la différence entre ces deux termes ?
Donc, la PMA, ou procréation médicalement assistée, ou encore assistance médicale à procréation AMP, désigne les procédés qui permettent la rencontre d'un ovule et d'un spermatozoïde grâce à une intervention médicale. Son objectif est de remédier à l'infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité. Il existe plusieurs méthodes, notamment il y a l'insémination artificielle, donc les spermatozoïdes sont déposés soit à l'intérieur de l'utérus, soit au niveau du col de l'utérus et la fécondation se fait ensuite par le processus normal. Il y a encore la fécondation in vitro, donc là c'est l'équipe médicale qui fait une stimulation ovarienne pour récolter des ovocytes, puis les féconde dans une éprouvette, soit de manière naturelle, soit en injectant directement le spermatozoïde dans l'ovule, et ça on parle plutôt d'ICSI, et les transfère de nouveau dans l'utérus de la femme.
Émilie, je me permets de te poser une question. En France aujourd'hui, en 2018, qui peut avoir recours à la PMA ?
Alors en France, les couples ne peuvent pas bénéficier d'un double don de gamètes, spermatozoïdes et ovocytes. Cette contrainte empêche les couples dont les deux membres sont stériles d'avoir recours à la PMA. La PMA est pour l'heure réservée aux couples hétérosexuels, mariés ou non, en âge de procréer. Le gouvernement envisage éventuellement d'étendre la PMA aux couples de femmes. Cette mesure devrait être proposée avant la fin de l'année dans un projet de loi sur la famille.
D'accord, alors la gestation pour autrui.
Alors, la gestation pour autrui... Donc...
Attends, je reprends la question parce que ça a été coupé.
D'accord. Alors.
Très bien, c'est beaucoup plus clair. Émilie, la gestation pour autrui, GPA, on en entend beaucoup parler en ce moment.
Oui, alors c'est pas exactement pareil que la PMA dont on vient de parler. La gestation pour autrui ou GPA, c'est une méthode de procréation médicalement assistée, donc également, pratiquée par des couples hétérosexuels lorsque la femme ne peut pas porter d'enfant du fait d'une absence ou d'une malformation de l'utérus.
Médicalement, c'est ça.
C'est ça, c'est médical. Concrètement, une mère dite porteuse va accueillir un embryon issu d'une fécondation à laquelle elle n'a pas participé et mener la grossesse pour donner naissance à un enfant qui n'est donc pas génétiquement le sien. Dans ce cas, la mère porteuse ne fournit pas d'ovule. La GPA peut également être pratiquée par des couples homosexuels masculins dans certains pays. Si la mère porteuse fournit un ovule, on parle de procréation pour autrui. La gestation ou procréation pour autrui est interdite en France, mais autorisée dans plusieurs pays d'Europe et dans certains États américains. Chaque année, quelques dizaines à quelques centaines de couples français auraient recours à une mère porteuse à l'étranger selon les différentes estimations.
D'accord, alors est-ce que vous savez combien d'enfants sont nés grâce à l'assistance médicale à la procréation en 2015 ? Alexis ?
Ah, écoutez, je n'en ai vraiment aucune idée, c'est une question intéressante. Peut-être, Émilie, aurais-tu des éléments de réponse ?
Alors oui, en effet, j'ai les chiffres, et ouais, j'ai un petit peu travaillé sur le sujet. Donc, selon l'INSEE, en 2015, 798 948 nouveau-nés ont vu le jour en France, dont 24 839 enfants nés après PMA, ce qui représente quand même 3,1% des enfants nés de la population générale cette année.
Tout de même, et puis ce chiffre risque d'augmenter hein, au vu des progrès de la science également. Émilie, si on revient très brièvement sur les états généraux, on a parlé de la PMA, on a parlé de la GPA, peut-être d'autres points de débat, le clonage, la recherche médicale, est-ce que d'autres thèmes sont à l'ordre du jour ?
Alors, comme on l'a précisé précédemment, le périmètre de débat est défini par le Comité national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Certains sujets figurent déjà dans la loi de bioéthique, comme les cellules souches et la recherche sur l'embryon ou les dons et transplantations d'organes. On va détailler quelques points. Alors, la recherche sur l'embryon humain et sur les cellules souches embryonnaires humaines est encadrée par le Code de santé publique et est conduite à partir de lignées de cellules souches embryonnaires disponibles ou à partir d'embryons surnuméraires.
Très bien. D'autres sujets sont proposés par ce CCNE, comme le développement des neurosciences, l'intelligence artificielle. Bref, vous avez compris, on pourrait en passer des heures et des heures. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps. Devant tous les débats éthiques, quelle est la position du gouvernement, Émilie ? Elle regarde, elle consulte. Est-ce que l'avis des Français va être déterminant ?
Alors, en ce qui concerne la posture du gouvernement, cela se résume à deux mots, neutralité et bienveillance. En effet, l'objectif est de ne pas influencer les débats et de laisser s'exprimer les citoyens. Les membres du gouvernement sont tenus de conserver une parfaite neutralité sur tous les sujets faisant l'objet des états généraux. C'est ce qu'on appelle le devoir de réserve bioéthique à conserver tout au long du processus de consultation.
Très bien. En tout cas, l'AMIF, notre association des médecins israéliens de France, a souhaité faire entendre sa voix dans le cadre de ces états généraux de la bioéthique, puisqu'elle organise 3 événements au cours duquel vous aurez la possibilité d'approfondir votre réflexion éthique. Tout d'abord, le 13 mars 2018, donc dans une semaine, le grand rabbin de France, Raïm Korsia, sera reçu par l'AMIF avec le docteur Jean Leonetti, qui est auteur des lois sur la fin de vie. On n'a pas eu le temps, malheureusement, d'en aborder la question aujourd'hui. L'AMIF participera le lendemain, le 14 mars 2018, à l'Assemblée nationale, au colloque sur le thème de la prise en charge de la douleur, et cela avec la participation et l'organisation de l'aumônerie israélite des hôpitaux. Et puis, on y arrive, l'AMIF organisera en juillet, en présence du docteur Michel Simès, fidèle ami de notre association, une projection de son film documentaire « Hippocrate aux enfers ». Une transition parfaite, Alexis, puisque vous allez nous donner un petit résumé.
Merci Jonathan. Merci Jonathan. Bah écoutez, voilà, je voulais insister un petit peu sur ce bouquin que j'ai eu l'occasion de lire. Donc, je n'étais pas conscient en tant que médecin de l'ampleur de la situation, de ce qui s'est passé finalement pendant les camps. Donc, c'est un bouquin qui est assez facile à lire, qui est très très bien écrit, qui permet d'avoir des portraits des principaux médecins nazis qui ont opéré dans les camps. Donc, c'est un bouquin qui est vraiment bouleversant. J'invite vraiment les auditeurs à le lire. Et pour bien sûr ceux qui veulent aller plus loin à ce propos, donc une soirée projection sera organisée avec Michel Simès, dans le cadre de la MIF. Et donc ce sera éventuellement l'occasion d'apporter vos exemplaires, vous pourrez même faire des dédicaces, mais aussi ce sera l'occasion bien sûr de voir le film, puisque derrière ce bouquin, il y a eu un film qui a été projeté d'ailleurs sur France 2. Et donc la projection se fera cette fois avec Michel Simès. Donc ça me semble vraiment... un très gros événement à venir, Jonathan.
Tout à fait. D'ailleurs, on salue notre président, le docteur Bruno Alioua, historien de la médecine également, et qui a participé à l'élaboration de cet ouvrage et de ce documentaire. Alexis, pour s'inscrire à cet événement, quelles sont les modalités ?
Alors, écoutez, l'événement n'est pas encore publié en ligne, mais il sera très prochainement. D'une manière générale, pour tous nos événements, hein, y compris ceux qui ont été cités précédemment, vous pouvez vous rendre sur le site internet amif.com. Alors, vous allez voir, on a un tout nouveau site. Vraiment, on en est assez fiers. Qui vous permettra donc de vous inscrire aux événements. Vous pouvez aussi nous contacter via le formulaire de contact du site internet ou aussi via l'adresse contact@amif.com. Voilà, contact@amif.com. Et donc voilà, je vous invite à vraiment régulièrement visiter le site. Vous pouvez aussi nous abonner à la newsletter pour tenir au courant.
C'est ça, tous les vendredis matin.
Voilà, tous les vendredis, on a une newsletter hebdomadaire pour vous tenir au courant de l'actualité de la MIF.
Et également des informations médicaux. On peut également avoir des informations.
Ah oui, on apprend aussi beaucoup de choses. Voilà. On fait une petite revue de presse. Généralement, on publie des articles sur les dernières informations importantes en médecine.
C'est parfait. Alors avant d'enchaîner et de terminer, de conclure sur le dernier point de cette émission, le dépistage du cancer colorectal. Alexis, quelles sont les dernières informations de notre association ? Je crois qu'il y a un congrès qui se prépare pour Tel Aviv début mai.
Oui, tout à fait. Donc, il y a un congrès qu'on a appelé congrès ascensionnel. Hein, donc, c'est sur le week-end de l'Ascension, avec ses nombreux jours fériés. Donc, pour tous ceux qui sont sur Tel Aviv ou pour tous ceux qui souhaitent venir, donc le congrès, c'est le 10 et le 11 mai. Donc, jeudi 10 mai et vendredi 11 mai. Donc, écoutez...
Alors, les intervenants, j'ai entendu parler du docteur Sidney Ohana sur la médecine esthétique, mais aussi également d'éminents professeurs israélo et français.
Tout à fait. Bah, le programme est déjà disponible sur le site internet. Alors, on a un raccourci hein, pour accéder au programme et à toutes les formalités pour s'inscrire. Donc, c'est congrès2018.amif.com. Donc, voilà, vous avez simplement à entrer ça, vous avez toutes les informations. En effet, un programme assez riche. Donc avec le professeur Émile Daraille aussi pour tout ce qui est cancer du sein. Nous avons en effet le docteur Sidney Ohana pour tout ce qui est médecine esthétique, chirurgie esthétique. Et voilà, d'autres intervenants. Alors je me permets juste de faire un petit parallèle. J'animerai une session sur la médecine, e-médecine, avec de sujets notamment la médecine avec l'intelligence artificielle. Donc je vous invite à...
Avec un invité très prestigieux, puisqu'il s'agit du docteur Laurent Alexandre.
Voilà, le docteur Laurent Alexandre nous a fait l'honneur d'accepter notre invitation, donc sera l'occasion d'avoir un beau débat. Jonathan, je me permets juste de pour clôturer cette émission, je pense que c'est important qu'on évoque un petit peu des programmes de santé publique, et notamment le dépistage du cancer du côlon. C'était un petit peu quelque chose qui nous tenait à cœur d'en parler à nos auditeurs.
Tout à fait, puisque vous devez le savoir, un test gratuit de dépistage du cancer colorectal est proposé par le médecin généraliste pour une certaine population. Donc Alexis, tu vas nous en dire plus, mais ça concerne principalement les personnes qui sont âgées de 50 à 74 ans et qui permettent d'éviter le risque de cancer du gros intestin et d'éviter parfois des traitements assez lourds, anticancéreux. Alors Alexis, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Comment ça se passe, ce test de dépistage?
Alors beaucoup d'entre vous ont dû déjà recevoir un courrier. Hein. À partir de 50 ans, la Sécurité sociale est chargée de faire une campagne et d'informer les assurés sur la possibilité de se faire ce dépistage. Donc, qu'est-ce que c'est que ce dépistage? Donc, en gros, voilà, vous recevez un courrier vous invitant à vous rendre chez votre médecin traitant, votre médecin généraliste habituellement. Donc, médecin généraliste qui, après ça, se rassurer qu'il n'y ait pas de contre-indication à l'usage de ce test, vous remet un test à faire à domicile. Alors, c'est un test, bien sûr, qui est gratuit, il n'y a pas besoin de matériel. Hein. Donc, c'est basé sur un prélèvement des selles qui est ensuite envoyé pour une recherche de sang. Voilà, toute trace de sang dans les selles peut être considérée suspecte et peut donner lieu à des examens supplémentaires, notamment la coloscopie. Voilà, donc c'est un geste qui est assez important, un bon réflexe à prendre à partir de 50 ans et à renouveler tous les deux ans.
Tous les deux ans, c'est parfait. Merci Alexis, merci Émilie. L'émission touche à sa fin, c'était un réel plaisir de la partager avec vous, mes chers amis. On se retrouve très rapidement. Merci à tous.
Les rendez-vous de la MIF présentés par le docteur Jonathan Taïeb.